Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, comme vous pouvez l'entendre avec cette voix d'outre-tombe, les petits mots de l'hiver m'ont rattrapé. Comme d'habitude, c'est Seb au micro, c'est si les 90s m'étaient comptés, les années 90 comme si on était encore. Aujourd'hui, au programme de cette 14e émission, un tour complet de ce qui bougeait en novembre 1997, les news d'époque évidemment, le rock également, le cinoche et bien d'autres choses, vous allez voir. Prenez place, le départ est imminent, vas-y Roby, envoie le jingle.
Alone.
On vient de commencer cette émission avec Why I Don't Believe in God, titre aux saveurs délicieusement campagnardes, c'était Everclear. Et calé juste derrière, la power pop bien calibrée de The Promise Ring avec Pink Chimney. Comme d'habitude dans cette émission, je vous le rappelle, toute la playlist est concoctée à partir des meilleurs disques du mois en question. Et aujourd'hui, ce sera donc des disques de l'automne 1997. Voilà un groupe que je n'ai pas souvent programmé dans les 90s et pourtant j'ai tous leurs disques à la maison, je vous assure, c'est un groupe français, un des groupes français même les plus marquants des années 90. À l'instant c'était les Tux et Chance, un extrait de leur album 19 Something qui en novembre 1997 venait tout juste d'atterrir sur les platines. Un disque de grande classe, probablement leur meilleur, en tout cas c'est mon avis. Il était produit par Kurt Block des Fastbacks. Après Steve Albini sur Strike, on peut dire que les Tux auront toujours su bien s'entourer pour préparer leurs disques. Allez, c'est l'heure des news d'époque, voilà ce qui s'est passé de plus marquant pour ce mois de novembre 1997. Et on commence nos news de novembre 1997 dès le 1er novembre avec l'Indonésie qui était au bord de la banqueroute. Du coup, un plan de sauvetage avait été monté par la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement et l'Indonésie a donc été sauvée depuis. 4 novembre, les États-Unis décrètent un embargo sur le Soudan pour cause de soutien au terrorisme. Le 8 novembre, c'est la suspension en France du service militaire obligatoire pour tous les jeunes nés après 1979. 14 novembre, l'Italie adopte une loi qui met fin à la primauté de la religion catholique. Le 16 novembre 1997, en France, c'est la mort de Georges Marchais, ancien secrétaire du Parti communiste français. 17 novembre, un attentat terrible perpétré à Louxor par un groupe islamiste fait une soixantaine de victimes. Les 6 terroristes seront arrêtés plus tard par la police égyptienne. Le 20 novembre 1997, après médiation russe, Saddam Hussein accepte le retour des membres américains de l'UNSCOM, qui exigeait la reprise des inspections dans un délai de 6 mois. Les États-Unis finalement refusent et se préparent à de nouvelles actions, notamment des frappes aériennes. Et on termine ces news de novembre 1997 avec le 22 novembre, la mort de Michael Hutchence, le chanteur et leader du groupe australien In Excess à 37 ans. Il s'est suicidé dans un hôtel à Sydney. Voilà pour l'effet marquant de ce mois de novembre 1997, retour de la musique tout de suite dans Si les 90s m'étaient comptés, un groupe de losers magnifiques comme je les aime. Leur terrain de jeu, c'était la power pop dans toute sa splendeur. Ils étaient en quelque sorte des cousins de Fountain of Wayne's ou de Super Deluxe, des neveux californiens de The Posies. Voici Sparkler, c'était un trio de Los Angeles, il aura pas marqué l'histoire du rock, mais en tout cas il aura eu son quart d'heure de gloire avec son très bon album Wicker Park.
Donc ça m'a plu.
Triggers off so many hurts, hurtful words.
Si vous aimez la folk un peu désertique, vous venez sûrement de vous régaler avec cette cover de Fousey de Grant Lee Buffalo. Cette cover, elle est signée par un groupe d'Albuquerque, il s'appelle Hazeldine. C'est un extrait de leur album Obies Fly. C'est sorti sur l'excellent label européen, plus exactement allemand, Glitter House. Ça date aussi de 97. Il est temps maintenant de passer à la tranche musicale de l'émission avec d'abord quelques news d'époque. On commence ces news musicales de novembre 1997 avec les Foo Fighters qui venaient de trouver un remplaçant à Pat Smear. Il s'agissait de Franz Stahl, un pote de Dave Grohl qui avait notamment joué avec lui dans son groupe de hardcore Scream. Quant à Pat Smear, à l'époque on l'annonçait dans le groupe de Courtney Love Hall, mais il l'a finalement jamais rejoint. Scott Weiland, le chanteur de Stone Temple Pilots, se disait décidé à monter un label. Le label a finalement pas vu le jour, il avait que le nom, c'était Foxy Dead Girl. Et comme pas mal d'autres projets de Weiland, ça s'est tombé à l'eau. Les Smashing Pumpkins allaient devoir sortir le portefeuille en novembre 1997 pour indemniser la veuve de Jonathan Moivin, leur ancien clavier, décédé d'une overdose sur leur tournée de 1996. Les filles de L7 quittaient Slash Records, la major, qui avait jusqu'alors sorti leurs trois meilleurs albums, Bricks and Heavy, Hungry for Stink et The Beauty Process Triple Platinum. Novembre 1997, c'est aussi le mois où Jerry Cantrell supervisait le mixage de Boggy des Potes, son premier album solo qui était prévu pour mars 1998. Beaucoup de beaux mondes étaient annoncés sur le disque, notamment Rex, le bassiste de Pantera, Angelo Moore de Fishbones, Les Claypool de Primus, sans oublier Mike Inez et Sean Kinney, ses compères d'Alice in Chains. Une étonnante face B également disponible ce mois de novembre 1997, c'est sur le single de Machine Head, c'est une cover de Negative Creep de Nirvana. Rick Rubin, le barbu producteur patron d'American Recordings, venait de signer à grand renfort de millions de dollars un jeune groupe prometteur dénommé System of a Down. Du côté des news un peu joyeuses, Damon Albarn s'apprêtait à épouser Justine Freshman d'Elastica. Et pour terminer, toujours en restant de l'autre côté de la Manche, Oasis venait de défrayer une nouvelle fois la chronique avec un Liam Gallagher plein de morve à la BBC qui insultait les Stones et les Beatles. Je les ferai avaler leur merde. Quelle élégance!
The ball is on my head. The ball.
À l'instant, c'était les Autrichiens de Sans Secours et Bullet, un titre sorti sur leur premier album Need. Comme chaque émission, on va jeter un coup d'œil au bac nouveauté pour ce mois de novembre 1997. Un mois pas des plus excitants, un petit peu comme on va voir aujourd'hui. Vous allez voir, beaucoup de compiles et de lives dispensables et finalement peu d'albums qui ont passé l'épreuve du temps. On commence avec NoFX, So Long and Thanks for All the Shoes. Un album de plus pour NoFX, je dirais, c'est le 7ème. Rien de bien nouveau sous le soleil californien. Du punk rock mélo pur jus, mais terriblement chiant, excusez-moi. Citez-moi d'ailleurs un grand album de NoFX après Having Petty Zoo. J'ai eu beau chercher, franchement, je l'ai pas trouvé. Et ce So Long for and Thanks for All the Shoes, il m'avait pas vraiment emballé, vous l'avez compris. Il y avait également une compile anecdotique de remix électro de Bush, Deconstructed. Plus excitant, en revanche, le premier album de Hatebreed, Satisfaction is the Death of Desire. Premier album donc du groupe de hardcore de Jam & Jasta. Du côté de la France, les ex-Supuration, rebaptisés Spherical Unit Provided, SUP, avec un album particulièrement bon, Room 7. Novembre 97, du côté du Stoner, ça bougeait également avec Orange Goblin et Frequencies from Planet 10. Retour à la France avec un album live de FFF, qui s'appelle tout simplement Album Live. Pour les fans d'ACDC, ça bougeait un petit peu. Avec un gros coffret qui s'appelait Bonfire, un coffret qui comprend un live, deux disques contenant la bande-son du concert de la VHS Led Verbirog The Movie et un CD composé de chansons rares et inédites. Du côté de Metallica, l'album Reload, deuxième volet de Load, il y a eu peu d'amateurs à l'époque. Jane's Addiction nous faisait également le coup de la compile de rares, d'inédits et de nouveaux titres avec Kettle Whistle. Du côté de Soundgarden, pas de compile de rares, mais en revanche une compile de face A, les meilleurs singles de Soundgarden regroupés dans l'album A-Side. On avait également Echo Belay, un groupe pas mal britannique de Britpop, qui sortait Lustra, leur troisième album. Et pour terminer, une drôle d'objet qui comprenait une VHS et un CD de Rage Against the Machine, The Ghost of Tom Jones. Alors je ne sais pas si vous avez ça chez vous, si vous avez quelques-uns de ces disques. Si je devais vous en conseiller un, je pense que j'arrêterais mon choix sur le Room 7 de SUP, un disque de métal made in France plein de personnalité, à la fois accessible et accrocheur, de la belle ouvrage comme on disait autrefois. Et pour terminer cette page musicale, on va faire un petit tour chez les libraires. On va jeter un coup d'œil sur leurs étals avec les couvertures des principaux magazines musicaux. Rock Sound ouvrait avec le groupe Cake qui était en tournée au Japon. Hard Rock Magazine avec Judas Priest et il titrait Les Retours du Maître du Heavy. Hard Force ouvrait avec Pantera et mettait Dimebag à couverture. Et pour terminer, Rock and Folk s'interrogeait The Verve, nouveau champion de la Britpop. On vient juste de s'écouter les ex-Supuration rebaptisés SUP et Room 7. C'est si les 90s m'étaient comptés. On évoque aujourd'hui le mois de novembre 1997. Novembre 97, vous étiez sûrement comme aujourd'hui en train de vous creuser la tête comme tous les ans pour les cadeaux de Noël. Du coup, je me suis replongé dans les catalogues de l'époque pour vous proposer un florilège des objets high-tech qui trustaient les ventes à cette époque-là. Vous allez voir, ça fait bien rigoler de nos jours. Et on commence avec un des premiers appareils photo numériques grand public, le Sony Mavica, qui permettait pour la première fois de prendre et de stocker des photos directement sur disquette 3 pouces et demi. Ça coûtait quand même 5000 francs à l'époque. Autre star des courses de Noël de novembre 97, la console de jeu Nintendo 64, qui, comme son nom l'indique, était dotée d'un processeur 64 bits et d'un joystick de commande analogique qui permettait un mouvement du personnage à 360 degrés au lieu des simples déplacements de haut en bas et de gauche à droite classiques. L'objectif de Nintendo était clair, écouler 450 000 consoles d'ici la fin de l'année 97, et pour y parvenir, le géant japonais s'était quand même payé une campagne de 3000 spots télé. Toujours dans les nouvelles technologies, le mini-disque laser enregistrable, un des gros succès des fêtes de 1997, avec quand même un prix qui oscillait autour des 2000 euros. L'ordinateur de poche en 97 en était également à ses balbutiements. En la matière, le Palm Pilot d'US Robotics avait une longueur d'avance, il était vendu 2000 francs et il permettait de dialoguer avec les PC de bureau et du domicile. Et mieux encore, sur les versions les plus élaborées, on pouvait envoyer et recevoir des emails, ce qui était une révolution pour l'époque. Et pour terminer ces courses de Noël 97, beaucoup moins cher, une centaine de francs, le Tamagotchi de Bandai, un petit animal virtuel qu'il fallait nourrir, éduquer, dont la longévité dépendait de la qualité des soins. Tamagotchi qui avait tellement inquiété les psychologues à sa sortie en mai 97 et qui a finalement complètement disparu, pratiquement aussi vite en tout cas qu'il était venu. I don't
Nous avons tous un destin. Rien n'arrive par hasard, ça fait partie d'un plan.
Et deux styles complètement différents, c'est aussi ça, c'est les 90s. D'abord, les Thrashers de Manchester, Dearly Beheaded, avec Generation, un single extrait de leur album de 1997, Chamber of One, un truc tout à fait dans la veine des premiers Machine Head, vous avez remarqué. Puis les Frenchies à roulette, les 7-8 et leur film Parks 7-8, dont on attend avec impatience la reformation l'année prochaine à l'occasion d'une tournée unique. Ce sera la première depuis 2003, et je me suis laissé dire qu'il devrait notamment y avoir des dates dans la région, en particulier à Toulouse et Albi. Côté ciné, le mois de novembre 1997 était pas folichon, franchement. Je doute que des films sortis ce mois-là vous aient marqué. Il y avait un Ken Loach, pas le meilleur, My Name is Joe, une histoire d'alcool et d'équipe de foot à Glasgow. Le Négociateur, un polar pas très réussi avec Kevin Spacey et Samuel L. Jackson. On avait également Small Soldier de Joe Dante, le gars qui avait fait Gremlins quand même, une histoire de jouets qui s'entretuait la nuit tombée. On avait Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas, The Borrowers, les mini-pousses revisités par Peter Hewitt, Ronin avec Robert De Niro, Blade, un film vampirique anecdotique avec Wesley Snipes, Kurt and Courtney, le documentaire de Nick Broomfield, une enquête sur l'éventuel meurtre de Kurt Cobain, Velvet Goldmine, super film là par contre sur la vague glam anglaise de 1971 à travers le destin d'une de ses idoles. Rencontre avec Joe Black, là c'est comme son nom l'indique, la rencontre de deux grosses stars, Brad Pitt d'un côté, Anthony Hopkins de l'autre. Et pour terminer, Aliens Resurrection, le classique Aliens revisité par le français Jean-Pierre Jeunet. Un film plutôt pas mal, vous le voyez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Tout de suite, on va s'envoyer donc l'avant-dernière tranche d'alternative rock de l'émission. Ça n'a pas laissé beaucoup de traces, mais l'album était bien cool dans son genre. Une prod typique dans l'esprit 90s, un mix de Seattle Sound et de post-hardcore, un petit peu dans la même veine que Handsome, voici Shift et Get In.
To
Voilà, on arrive au terme de ce 14e épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ma voix a tenu, ouf, on peut souffler. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ce sera un spécial Noël dans les 90s. D'ici là, faites tourner un maximum de vieux disques, dépoussiérez les VHS, c'était tellement mieux avant. Bis à tous, on se quitte avec, en guise de générique aujourd'hui, ce bon vieux Steve Earle et son Tiny Town, un excellent titre tiré de son meilleur album, là aussi à mon goût. El Corazon, ça tombe bien, c'était aussi de novembre 1997. Bye bye.
Got my old random knife. I cut that boy.